9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Alors vous le savez, AVS ça veut dire à votre santé, et le mardi ça veut dire à votre sexualité avec Nadia Elbouga qui est avec nous tous les mardis. Bonjour Nadia, bienvenue.
Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes sage-femme et sexologue clinicienne. Notre invitée aujourd'hui s'appelle Marie-Laure Brival, bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Voilà, vous êtes gynécologue, obstétricienne, ancien chef de service à la maternité des Lilas en Seine-Saint-Denis. Et vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de SOS Contraception, les clés pour bien comprendre son corps et bien choisir sa contraception aux éditions First. Est-ce que c'est d'avoir assisté à tellement de grossesses indésirées qui vous a amené à vous intéresser à la contraception?
Ça peut être une porte d'entrée, mais c'est pas l'essentiel, c'est pas la principale. Je crois que pourquoi m'intéresser à la contraception et faire ce petit livre, c'est parce que j'avais trop souvent dans mes consultations des jeunes femmes, qu'elles soient adolescentes ou jeunes ou plus âgées, qui avaient une méconnaissance totale, en tout cas importante, de leur corps, de leur sexualité et surtout des moyens de prévention d'une grossesse non prévue, non désirée, par la contraception. Donc, au fil de mes consultations, je faisais un petit peu d'éducation et il m'a paru essentiel de retranscrire ça dans un livre.
Mais c'est quelque chose que vous relevez dans votre livre, c'est le paradoxe français, c'est un tiers des grossesses en France, moi ça me paraît énorme, un tiers des grossesses en France ne sont pas désirées.
Tout à fait.
Et c'est énorme.
C'est beaucoup. Et un tiers des femmes qui se retrouvent enceintes, effectivement, étaient sous contraception. Donc, il y avait une méconnaissance.
En plus, il y a un échec.
Ouais. Et voilà, il y a un échec. Donc, la question de la grossesse non prévue va se déboucher soit sur une grossesse que finalement on va accepter, soit une grossesse qu'on ne va pas accepter et qui va aboutir à une interruption de cette grossesse. Donc, je crois que ça reste de toute façon une situation très difficile sur le choix final pour les femmes. Donc il est toujours préférable de ne pas se retrouver dans cette situation puisqu'actuellement il y a énormément de moyens de contraception et il me semble que chaque femme peut trouver un moyen de contraception adapté à sa façon de vivre, à son parcours de vie, à sa sexualité.
En plus de 30 ans de vie professionnelle, est-ce que vous avez l'impression, et avec du recul, que la contraception, comme beaucoup de sujets, obéit à des modes?
Oui, peut-être. Effectivement, je crois qu'il y a eu des modes, de même que tous les traitements hormonaux, d'une façon générale, il y a des poussées comme ça, des flambées. Pour la mode, je crois que c'est important de rappeler que la contraception orale, hormonale, la pilule, a été un acquis féministe, un acquis de lutte des femmes pour justement séparer sexualité et maternité, c'est-à-dire choisir plutôt des grossesses souhaitées que des grossesses subies. Et c'est vrai que l'arrivée de la pilule dans les années 50, au milieu du siècle dernier, a été une révolution pour les femmes et un acquis considérable. Et de ce fait, cette pilule est devenue intouchable quelque part, du fait de ce qu'elle a apporté aux femmes. Et donc, la mode pilule a duré très longtemps jusqu'à cette crise de 2012, où une jeune femme s'est plainte du fait des effets secondaires graves qui lui sont arrivés suite à la prise de la pilule. Et tout d'un coup, dans cette ambiance écologique où on cherche qu'est-ce qu'on nous donne, qu'est-ce qu'on mange, des choses plus naturelles, plus près de la nature, les deux associés ont fait que à partir de 2012, il y a une nouvelle mode avec un abandon progressif de la pilule pour beaucoup de femmes, mais qui ont changé de contraception, qui se sont orientées vers d'autres types de contraception plutôt que d'abandonner totalement la contraception. Bref, je crois que c'est le moment actuellement, plus que jamais, de revenir sur ces questions contraceptives paisiblement pour que chaque femme puisse se sentir un petit peu à l'aise dans les choix contraceptifs et que ça ne soit pas imposé par justement une mode.
Justement, alors c'est très intéressant ce que vous dites parce que cette pilule a été vraiment le symbole de la libération de beaucoup de femmes. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est derrière la question de l'effet de mode, il y a à dire plutôt que les femmes se ressaisissent finalement de l'essentiel, c'est-à-dire qu'elles autant on a justement fait ce travail de séparer maternité et sexualité et plaisir, il y a aussi ce travail à faire de séparer pilule et contraception, c'est-à-dire le fait de d'avoir une grossesse quand on le souhaite en tant que femme et dans un couple, et de ne pas justement faire porter à un seul mode finalement contraceptif toutes ces luttes et acquises durement par voilà par nos sœurs féministes passées, c'est ne pas remettre en fait tout simplement parce qu'il y a un débat c'est vrai là, sur ces questions-là, ne remettre en cause finalement une méthode contraceptive pour les raisons qui appartiennent à chacune, écologique comme vous dites.
Oui, mais enfin, non, il y a aussi des questions de santé, hein, Nadia. Derrière tout ça, il y a aussi la question des hormones. Donc,
mais c'est justement, c'est ce que j'allais dire. Peu importe, il ne faut pas qu'on se chamaille sur ces questions-là de modalité, alors que l'essentiel est de ne pas toucher à la contraception des femmes. C'est ça l'essentiel. C'est pas de ne pas toucher à la pilule, parce que le débat en fait a glissé là-dessus. C'est-à-dire que maintenant, on le voit bien. Hein, d'ailleurs, hein. Vous allez sur Instagram et vous verrez bien les conflits de génération qu'il y a sur ces questions de modalité de contraception. Et en fait, à mon sens, je sais pas si Dr Brival vous êtes d'accord, je pense qu'on passe à côté d'essentiel, parce que au final, on brouille le discours et l'objectif.
Oui, je crois que ce que vous soulignez, Nadia, c'est effectivement la contraception ne se résume pas à la pilule, parce qu'il y a, et j'aimerais pouvoir parler de toutes les méthodes contraceptives, parce que là, je crois qu'il y a un vrai message à faire passer. Et puis la deuxième chose qui me semble très importante dans ce que vous avez dit, c'est qu'à l'occasion de cette crise, cette fameuse crise dite de la pilule en 2012, c'est sûr que moi j'ai vu un basculement. Les femmes se sont ressaisies de la question contraceptive. Elles ne subissaient plus une ordonnance prescrite par un médecin qui, selon ses habitudes, prescrivait systématiquement la pilule, mais osaient dire « je viens pour un dispositif intra-utérin, je viens parce que je veux ça ». Et là, il y avait un vrai dialogue, vrai dialogue qui s'est instauré, et le médecin devait taire ses spontanéités prescriptives et écouter ce que la femme avait à dire, parce que personne n'est mieux placé qu'elle pour savoir, en fonction de sa vie, de sa contraception et de sa sexualité, quelle est la meilleure contraception pour elle, et donc l'importance du choix. Et ça, je crois que cette crise de la pilule, si elle a permis ça, c'est énorme. Énorme que les femmes puissent... Donc ça amène à découvrir son corps, ça amène à se poser des questions, et de faire un choix. Faire un choix, c'est savoir a priori, pour faire ce choix a posteriori.
Et de déconstruire beaucoup d'idées reçues qui circulent encore aujourd'hui, dont on va parler d'ailleurs.
Notamment sur ce qu'on appelle le stérilet. C'est vrai que le stérilet, c'est celui qui concentre le plus d'idées reçues. Le stérilet. On a l'impression que c'est un truc... pas vieillot, mais enfin,
des choses un petit peu barbares presque, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que cet objet qu'on met dans le corps et...
Est-ce qu'on le sent bouger? Est-ce qu'on peut faire du sport avec?
Commençons par bien nommer les choses, parce que dans stérilet, on entend stérilité, donc forcément...
Or, il faut souligner que le nom de cette contraception, je sais pas comment c'est arrivé stérilet, mais ça s'appelle un dispositif intra-utérin. Et cette volonté de changer, parce que c'est vraiment ça, son effet contraceptif, c'est un objet qu'on a posé dans l'utérus, et pour arrêter d'employer ce terme stérilet qui évoque en permanence la question...
Mais moi, je suis vieille époque, sinon plus personne dit stérilet, tout le monde dit DIU. DIU, c'est ça.
Voilà, dispositif intra-utérin.
J'entends jamais personne, par contre, utiliser dispositif intra-utérin, hein.
Oui, mais enfin, c'est DIU, mais ça veut bien dire ça. Voilà.
Alors, je vais y arriver à le dire, ça reste une question de femme, finalement.
La contraception.
Oui. Toujours aujourd'hui.
Toujours aujourd'hui.
Parce que vous m'avez perturbé.
Ça aussi, c'est quelque chose d'important à revenir sur cette question. C'est vrai que la charge contraceptive, dès l'arrivée de la pilule, dans les années 1950, la charge contraceptive est revenue totalement à l'entière responsabilité des femmes. Or, c'est important de rappeler que ce qui se passait avant, c'est que cette question contraceptive était gérée de façon dans l'intimité des couples, et l'homme avait une part extrêmement importante, puisque la contraception reposait essentiellement sur lui, par le retrait, par l'usage du préservatif systématique, et les couples ont géré leur nombre d'enfants avec ces méthodes essentiellement portées par les hommes, et les femmes, effectivement, prolongeaient les allaitements. Enfin, il y avait un certain nombre de moyens dits naturels pour limiter le nombre d'enfants de façon importante et des grossesses non désirées. À partir du moment où cet acquis féministe, et c'est pour ça que le paradoxe de la pilule est quand même assez intéressant, qu'il y a eu un moyen apparemment simple, facile à prendre, qui pouvait entraîner une contraception extrêmement efficace, parce qu'en théorie c'est du 100% la pilule, plus personne s'est posé des questions sur comment on répartit cette charge. Bon, ben maintenant vous avez le moyen, vous vous êtes battue pour ça, vous devez, soyez contente et assumez.
Débrouillez-vous.
Et c'est vrai que les hommes se sont non seulement de façon presque automatique, ne se sont plus sentis en responsabilité de cette question. Et là, c'est un vrai problème. Parce qu'après tout, c'est évident que la sexualité, c'est quelque chose qui se passe à deux. Avoir un enfant, c'est quelque chose qui se passe à deux. Et que cette question de contraceptive, depuis ce milieu du siècle, pour moi, je mets la bascule à ce moment-là, les femmes se retrouvent entièrement responsables de l'arrivée ou non d'une grossesse non prévue, non désirée.
En charge, oui, bien sûr.
En charge, voilà. Et il est temps, il me semble, à travers l'éducation à la sexualité qu'on pourrait fournir aux jeunes enfants, puisque on pourra en parler peut-être plus tard, que les hommes prennent conscience de leurs responsabilités et s'investissent dans cette question contraceptive, parce que je crois qu'il n'est plus question pour eux maintenant de dire on m'a fait un bébé dans le dos, je sais pas si cette expression.
Ah, si, ça voilà. Par contre,
et bien
ça dit toujours.
Elle perdure, s'ils ne veulent plus. Enfin, être dans cette situation, à eux d'assumer et de veiller à avoir une contraception, eux aussi.
De toute façon, il faut quand même toujours être deux pour faire un bébé, au moins.
Évidemment.
Donc voilà. Donc, bien, allez, on parle de contraception ce matin et on verra toutes les méthodes de contraception, tous les choix qui s'offrent à vous. AVS jusqu'à 10h sur Beurre FM.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, nous parlons de contraception ce matin avec notre invitée Marie-Laure Brival qui publie SOS Contraception, les clés pour bien comprendre son corps et bien choisir sa contraception aux éditions First. Alors, moi qui, après quelques années d'émission, quand même croyais avoir vu beaucoup de choses, j'ai été arrêtée en lisant votre livre, Nadia. Oui, sur la durée d'un cycle.
Oui.
Qu'est-ce que c'est qu'un cycle normal? Et quand on parle de cycle, on parle de quel cycle d'ailleurs? Parce qu'il y a plusieurs cycles.
Alors oui, juste avant, pour compléter votre question, effectivement, le livre de Dr Brival commence avec l'explication du cycle. Parce que pour pouvoir être en mesure de choisir sa contraception en dehors de son mode de vie, du fonctionnement conjugal, il faudrait déjà comprendre comment on fonctionne soi, dans un premier temps.
Oui, tout à fait. Donc c'est pour ça qu'au départ, il y a une partie qui pourrait paraître rébarbative et un peu difficile à comprendre, mais c'est essentiel de comprendre la complexité du fonctionnement, en tout cas du cycle féminin. Ce qu'on appelle un cycle, c'est par définition, d'une façon générale, c'est un événement qui revient au même événement au bout d'un certain temps. C'est simple, un cycle, c'est ça, c'est-à-dire on tourne en rond. Il y a l'événement, on reprend. Le cycle...
Alors, ça commence au début ou ça commence à la fin des
règles?
Alors,
justement, c'est très important que les femmes, quand on pose la question, vos dernières règles, c'est toujours le premier jour des règles. Le premier jour des règles, pas la fin des règles, parce que la durée des règles est variable d'une femme à l'autre. Ça peut être 48 heures, 72 heures, comme 5 jours de saignement. Donc, on n'est plus du tout renseigné si on prend la fin des règles. Le renseignement, quand on demande date des dernières règles, c'est très important de retenir ça. C'est quelque chose que je répétais au cours de mes consultations. Premier jour des règles. Ça veut dire qu'à partir de là, ça signifie que l'organisme féminin, qui tous les mois, par le biais de ce cycle, de cet événement qui revient au même point chaque mois, n'a qu'une fonction, je le dis dans le livre, c'est de préparer l'organisme féminin à l'accueil d'une grossesse. C'est simple. Il n'y a pas d'autre raison. Et donc ce cycle va commencer.
C'est pas pour purifier l'organisme.
Mais
c'est
pas du tout. Les règles, souvent, on pense que c'est pour enlever du vieux sang, toxines,
des impuretés.
Etc. Des impuretés, pas du tout. Ce cycle, c'est justement quand les règles arrivent, ça signifie simplement qu'il y avait une grossesse qui était attendue, possiblement, mais qu'elle n'est pas arrivée. Donc tout le dispositif qui avait été mis en place dans l'utérus et à travers le cycle hormonal ne sert plus. Donc il va être évacué et dès qu'il est évacué, un nouveau cycle recommence. Donc le premier jour des règles signifie que c'est le premier jour déjà du cycle suivant.
Le premier... Ah oui, et pas à la fin. Oui, d'accord.
Mais oui,
à la fin des règles.
Et voilà.
C'est
non,
très important.
Non. Et que la fin des règles, c'est pas la fin du cycle.
Tout
c'est
à fait.
C'est ça que...
Ah, oui, voilà. Ouais. Bah oui, bien sûr, merci de le souligner.
Mais oui.
Donc, quand les règles commencent, ça veut dire que le dispositif du mois d'avant n'a pas servi. Donc, ce saignement signifie que c'est la muqueuse utérine et non pas du sang. Les règles, faut savoir que c'est essentiellement des tissus, les tissus de l'intérieur de l'utérus qui vont être évacués parce que ce tissu aurait servi de berceau à l'accueil d'un œuf fécondé. S'il n'a pas servi, il va être évacué. Donc c'est essentiellement de l'endomètre, du tissu intra-utérin qui va être évacué. Et l'évacuation, c'est-à-dire le décollement de ce tissu qui était préparé pour accueillir un œuf, va entraîner des ruptures de petits vaisseaux qui vont saigner. C'est pour ça que les règles sont accompagnées de sang. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est d'évacuer le tissu préparé pour accueillir un œuf. Et une fois qu'on a compris ça, c'est beaucoup plus clair. Donc, chaque mois, et quand c'est évacué, ça veut dire que le corps féminin va se repréparer au bout d'un temps pour accueillir cet œuf avec une ovulation qui va se produire à peu près au milieu.
Donc ça, c'est le cycle ovarien.
Voilà.
D'accord.
Oui, l'ovulation. Et l'ovulation a pour but d'attendre un spermatozoïde qui va venir le féconder. Et le corps du féminin continue à se préparer pour accueillir cet œuf fécondé autour de l'ovulation et poursuivre la grossesse. Donc, pour preuve que ces règles, c'est l'évacuation du nid, pour aller simple, de fait pour accueillir l'œuf, c'est que si on est enceinte, il n'y a plus de règles pendant 9 mois. Donc c'est pas... voilà, c'est-à-dire que le nid il sert à quelque chose, donc il va accueillir pendant 9 mois ce bébé. Et s'il n'y a pas d'œuf fécondé qui vient se nicher, tout va être évacué pour recommencer toujours dans la même attente d'une fécondation.
Alors, vous dites quelque chose d'essentiel aussi dans votre livre, et c'est qu'on le voit très peu, à moins de consulter des livres un petit peu plus techniques. Vous dites que le calcul d'un cycle se fait toujours a posteriori et non a priori. C'est-à-dire que pour avoir vraiment le nombre de jours exact de son cycle, il faudrait avoir le premier jour des règles suivantes en réalité.
Merci de souligner cet aspect. C'est pourtant simple
on le
et
part,
en même temps complexe.
Ça,
hein. Et c'est vrai que moi, j'expliquais aux femmes ce genre de choses. C'est qu'effectivement, pourquoi on est arrivé à ces conclusions? Souvent, on reste dans sa tête un cycle. C'est 28 jours, c'est-à-dire ce retour de règles reviendra tous les 28 jours. Et l'ovulation est au 14e jour. On apprend ça dans les manuels scolaires. C'est une idée, mais qui est effectivement qui devrait être bannie, arrêtée. Parce qu'il est possible qu'une femme ait des cycles de cet ordre-là. Mais chaque cycle va dépendre de qui est cette femme. Certaines femmes vont avoir des cycles courts, 24, 25 jours. D'autres vont avoir des cycles beaucoup plus longs que 28 jours, c'est-à-dire même jusqu'à 38 jours. Entre 24 et 38 jours, ces cycles sont normaux. Alors, comment on calcule l'ovulation? L'ovulation, et ça, c'est très important, c'est pas 14 jours après l'arrivée des règles, c'est 14 jours avant l'arrivée des règles suivantes. Si bien qu'une femme qui a un cycle de 24 jours, son ovulation, c'est très simple, c'est 14 jours avant l'arrivée des règles. Si le cycle est de 24 jours, ça veut dire que les règles arrivent au 24e jour. On est bien d'accord. Si vous enlevez 14 jours à 24, ça fait que son ovulation sera au 10e jour du cycle. Si je prends l'autre extrême, une femme qui a des cycles de 38 jours, on compte a posteriori moins 14, ça fait une ovulation au 24e jour du cycle. Et si je prends une femme qui a des cycles de 28 jours, 28 moins 14, c'est effectivement une ovulation 14e jour. Mais c'est seulement pour les femmes qui ont un cycle de 28 jours. Toutes les autres ne sont pas concernées.
Donc toutes ces informations qu'on nous donne sont basées sur des femmes qui ont des cycles de 28 jours.
Absolument. Et d'où l'intérêt de s'observer. Parce qu'en fait, pour savoir ça, il faudrait que les femmes fassent une observation sur plusieurs cycles.
Tout à fait. Mais si on n'a pas compris cela, vous venez de le comprendre et de l'exprimer très simplement.
Vous avez bien fait de venir.
C'est comme ça que certaines femmes, parce que c'est ça, qui essayent de régler leur rapport sexuel en fonction d'un cycle et d'une ovulation théorique au 14e jour, en disant pas aujourd'hui, je compte. Mais elles ont totalement faux, sauf si elles ont des cycles strictement de 28 jours. Alors effectivement, on peut, une femme, si quand elle a des cycles qu'elle a repérés, donc il faut se connaître, connaître son corps et étudier son cycle. Si sur 6 mois, une femme a des cycles à peu près, je dirais, de 33 jours par exemple, elle peut en conclure que son cycle à elle, en tant que femme, individu, il est 33 jours.
Sur 6 mois, il faut s'observer 6 mois.
Absolument. C'est ça. Voilà. 33 jours, ça veut dire 33 moins 14. Elle a directement le jour très probable de son ovulation. Alors maintenant, toutes les femmes calculent sur des programmes, je voudrais des juste applications, des applications internet. Mais c'est une dépossession de soi-même. C'est-à-dire que quand je leur dis, c'est l'application qui me dit que mon ovulation est là. Je lui dis, mais qu'est-ce que vous connaissez de l'ovulation? Qu'est-ce que vous connaissez de vos cycles? Et là, on reprend tout parce que c'est plus abêtissant d'utiliser ces applications sans comprendre ce à quoi ils se réfèrent.
Comme les GPS.
Exactement.
Expliquez-nous l'action de la pilule hormonale sur les cycles.
Alors ça aussi, très important à comprendre quand on prend une pilule. Les femmes, la plupart du temps, soit parce qu'on n'a pas pris aussi le temps de leur expliquer. La pilule, qu'est-ce que c'est? Je vais rester sur la pilule classique, habituelle.
Première G.
Oui, mais surtout la composition associée, c'est-à-dire c'est une combinaison, c'est ce qu'on appelle la pilule combinée. C'est une combinaison d'hormones féminines synthétiques.
Une coque. Une COC.
Voilà, une COC combinée, c'est-à-dire qu'il y aura les deux hormones féminines, les œstrogènes et la progestérone. Et ces hormones sont synthétiques et on va les mettre dans la pilule. Bon, donc la pilule, c'est une combinaison hormonale. Qu'est-ce qui se passe en dehors de la pilule sur un cycle physiologique? Tout cela est commandé par le cerveau. On l'ignore souvent, ça vient pas. C'est le cerveau, dans une zone très particulière du cerveau, qui commande beaucoup d'autres glandes, dont les ovaires. Et c'est à partir des signaux du cerveau, c'est-à-dire qui dirige tout, que les ovaires vont se mettre en route pour aboutir à ce fameux cycle dont on a parlé. Mais en retour, les ovaires, en fonctionnant, ils vont sécréter des hormones, ils vont déterminer le cycle, va envoyer en retour du signal cérébral pour lui dire tu vas travailler pour faire le cycle. En retour, quand il aura suffisamment travaillé, il va envoyer un signal dit négatif au cerveau pour dire mais ça y est, j'ai fait le boulot, on peut arrêter. Et c'est comme ça que s'installe le cycle. Alors, comment en pratique ça se passe? Le cerveau envoie des impulsions aux ovaires pour dire tu travailles au premier jour des règles. C'est-à-dire que tout avait été préparé pour une grossesse. Il n'y a pas eu de grossesse, donc tout s'en va. Donc, premier jour des règles, le cerveau dit tout est retombé à zéro. Je recommence la stimulation des ovaires. Les ovaires vont se remettre à travailler en vue de l'ovulation, sécréter beaucoup d'hormones. Et au bout d'un certain temps, on va rester sur le schéma classique du 14e jour de l'ovulation, le taux d'hormones va monter, ça va déclencher l'ovulation, et à ce moment-là, les ovaires vont envoyer un signal négatif au cerveau pour dire « stop, il n'y a plus besoin, j'ai fait le boulot, donc plus de stimulation, et on voit. S'il y a de nouveau des règles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu grossesse, donc je ne vais pas rentrer dans la grossesse et les sécrétions hormonales de la grossesse, mais s'il n'y a pas eu grossesse, il y aura de nouveau les règles. Et le cerveau recommencera son cycle à envoyer des signaux. La pilule, comment elle intervient.
Ça, on verra après la pub. Non, c'est important.
Voilà.
Comment elle intervient,
c'est
la pilule. C'est surtout qu'il faut envoyer la pub. Donc, nous saurons. Je ne sais pas si on aura le temps de parler beaucoup des moyens de, mais au moins on aura appris comment fonctionne le cycle, parce que c'est la base.
Important.
C'est la base. À votre santé jusqu'à 10h.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Pour parler de contraception, il faut bien comprendre comment fonctionne un cycle. Et on en parle ce matin avec notre invitée Marie-Laure Brival, qui publie SOS Contraception, les clés pour comprendre son corps et bien choisir sa contraception. Il faut dire que vous nous expliquez remarquablement comment fonctionne le cycle féminin. C'est chez First Edition, votre livre. Donc on était avant la pub en train de voir quelle était l'action de la pilule sur un cycle. Qu'est-ce qui se passe finalement quand on est sous contraception de pilule?
Alors voilà, c'est tout. Et une fois qu'on a compris ça, on sait comment prendre sa pilule. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant qu'on a compris que tout était dirigé par le cerveau? Quand on prend la pilule, on va prendre quotidiennement une dose hormonale, c'est-à-dire ces hormones normalement sécrétées de façon physiologique par le corps féminin, mais qui sont introduites dans le corps par le biais de la pilule et qui contiennent ces hormones qui sont des hormones finalement synthétiques, fabriquées en laboratoire. Donc, mais qui ont exactement la configuration à quelques détails près de nos hormones habituelles. Donc ça va inonder le sang des femmes qui prennent la pilule, et le cerveau va être informé qu'il y a un taux d'hormones important qui circule dans le sang, donc que les ovaires fonctionnent, si on a bien compris que le cerveau envoie des impulsions aux ovaires pour dire fonctionner, mais en retour, les ovaires envoient des impulsions pour dire on fonctionne, on a fait le job, donc stop, arrête ta stimulation. Là, de façon passive, le cerveau va recevoir une information que les ovaires ont fait le boulot. Or, ils ne l'ont pas fait. C'est la pilule qui apporte ce taux d'hormones important dans le sang. Donc, le cerveau, il va rester au repos. Il ne va pas...
Il va rien envoyer.
Il va rien envoyer comme ordre aux ovaires.
Et les ovaires aussi sont au repos.
Et du coup,
pas jaloux.
Puisque les ovaires ne reçoivent pas d'ordre de fonctionner, ils vont rester au repos. Donc, c'est un moyen implacable d'annuler l'ovulation, puisque tout est annulé par ces hormones qui circulent grâce à la prise de la pilule, qui met tout le monde au repos, tant le cerveau que les ovaires. Donc, il n'y aura pas d'ovulation. S'il n'y a pas d'ovulation, il n'y aura jamais de conception. On peut avoir les milliards de spermatozoïdes, ils ne vont jamais rencontrer d'ovule, puisque l'ovaire ne fera pas d'ovulation, puisqu'il n'a pas été invité par le cerveau à le faire. J'espère que c'est assez clair.
C'est très clair. Et d'ailleurs, voilà. Au passage, on va faire sauter une idée reçue aussi. Ce n'est pas parce que tout ça est au repos que ça rend stérile.
Exactement. Ça, c'est donc, alors, ouais, par définition, tous les moyens qui dit contraception, alors c'est très important, c'est de la réversibilité totale.
Dès qu'on arrête.
Dès que vous arrêtez, dès que vous faites.
C'est une idée aussi, parce qu'on dit il faut un certain temps.
Il faut du temps.
Quand on a été 10 ans ou 15 ans sous contraception, pour remettre la machine en marche.
Faux. La meilleure preuve que je peux en donner, puisqu'on parlait tout à l'heure, un tiers des femmes qui demandent une interruption de grossesse étaient sous contraceptif. Ben, vous oubliez la pilule un soir. Un soir. Qu'est-ce qui va se passer? Le taux d'hormones qui est contenu dans la pilule, il ne sera pas là. Donc, vous aurez plus de 24 heures de passé. Tout ça est calculé. Donc, dans le sang, la chute du taux d'hormones va être automatique, puisque vous n'avez pas pris la dose quotidienne. Le cerveau, il dit, oula, ça
on
a chuté. Donc là, il faut reprendre le boulot. Donc, il va réenvoyer ses stimulations. Et c'est comme ça qu'à l'oubli d'une pilule, vous avez des ovulations, parce qu'immédiatement, le cerveau va envoyer un signal de stimulation aux ovaires qui vont se remettre à travailler et à faire l'ovulation.
En gros, si une femme a l'habitude de prendre sa pilule à 20h et qu'elle la prend à 2h du matin, c'est la cata ou pas?
Non, pas du tout. Il y a quand même
c'est quoi le delta?
C'est 12 à 24 heures.
12 à 24 heures, d'accord.
Donc, il y a quand même un delta. C'est-à-dire, dès que vous constatez l'oubli, il faut aller. Mais il faut bien comprendre les mécanismes physiologiques pour comprendre pourquoi, tout en prenant la pilule,
on peut se retrouver enceinte.
Pareil, vous enlevez un dispositif intra-utérin, vous pouvez être enceinte le lendemain. Ça m'est arrivé, et c'est une anecdote que j'aime raconter. avant d'enlever un dispositif intra-utérin, tout gynécologue doit repérer, puisque le dispositif, hein, le DIU, ne joue pas du tout, c'est pas du tout le mécanisme de la pilule, attention. Et il faudra qu'on en parle tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une contraception dite mécanique, elle ne joue pas du tout sur la physiologie féminine. Elle ne bloque pas l'ovulation, les femmes continuent à fonctionner comme avant. C'est la présence du dispositif dans l'utérus qui va empêcher une nidation, mais qui va être toxique pour les gamètes, tant l'ovule que le spermatozoïde. Si, puisque le cycle de la femme continue, si vous enlevez un dispositif intra-utérin le lendemain ou le jour ou la veille d'une ovulation et qu'il y a eu un rapport sexuel, vous enlevez le dispositif, la fécondation se fera. Et ça m'est arrivé.
Ah bon?
Mais évidemment.
Le spermatozoïde vit si longtemps que ça?
Le spermatozoïde peut vivre jusqu'à 3-4 jours dans les foies génitales.
Alors là, franchement, là, vous l'apprenez.
Et donc,
moi, je croyais que s'il n'était pas utilisé tout de suite, il mourrait de sa belle mort.
Pas du tout. Toujours demander à une femme avant d'enlever un dispositif intra-utérin où elle en est de son cycle et est-ce qu'elle a eu un rapport sexuel dans les 2-3 jours précédant l'ablation ou juste après l'ablation parce que son corps. Il fonctionne.
Moi, j'aimerais qu'on reste sur la pilule parce qu'il y a beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe si une femme enchaîne les plaquettes et est-ce que c'est mauvais pour la santé?
Pas du tout, puisque on est là sur un phénomène. Soit on ne veut pas prendre d'hormones, mais si on prend des hormones, on peut assurément de façon très sécurisée, même s'il y a des accidents parfois graves, mais ils sont exceptionnels, prendre la pilule. Et en plus, la notion de réversibilité...
Non, mais quand on enchaîne les plaquettes, ça supprime le cycle.
Non, mais là, mais c'est un cycle purement artificiel, la pilule. Ça n'a rien à voir avec le cycle physiologique.
Ça ne supprime pas le cycle, ça supprime les saignements.
Oui, mais c'est pas la même chose. Vous savez très bien qu'une idée reçue, c'est que s'il y a des saignements, c'est que ça sert à quelque chose. Si on supprime les saignements, c'est que c'est mauvais pour la santé.
Alors, les saignements ont été maintenus avec la pilule séquentielle dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire on arrête une semaine au bout de 3 semaines de prise. C'est justement pour respecter une idée de la physiologie féminine et un effet psychologique chez les femmes qui tous les mois saignaient auparavant. Et donc, c'est vraiment le seul but de cet arrêt d'une semaine de la pilule. Mais la pilule peut tout à fait être prise en continu. D'ailleurs, il y a de nombreuses pilules sur le marché qui sont prises en continu et qui entraînent une absence de règles. Et l'idée reçue que beaucoup de femmes ont, beaucoup d'hommes, beaucoup de couples, c'est que les règles, ça sert à laver l'organisme, à sortir le sang vicié, etc. Or, c'est pas du tout la fonction des règles. La fonction des règles, c'est l'évacuation d'un système
qui
n'a pas servi à la nidation et qui va s'en aller et en s'en allant va entraîner des petits saignements. Mais l'essentiel des règles, c'est du tissu endométrial qui va partir comme ça. Et donc, la question de continuer à prendre la pilule et de ne pas avoir des règles, il y a un certain nombre de contraceptions où on n'a pas ces fausses règles, parce que c'est un cycle artificiel qui est introduit par la pilule, ça n'a aucune espèce de conséquence, et j'insiste sur le « aucune », dans la vie des femmes et la santé des femmes.
D'ailleurs, c'est une pratique qui est utilisée chez beaucoup de musulmanes lorsqu'elles vont faire
le pèlerinage,
voilà, pour ne pas se retrouver embêtées par les saignements dits de privation.
Alors,
bien dire que sous pilule, ce ne sont pas des règles.
Est-ce que ça fonctionne, ça, d'ailleurs?
Alors après, il y a pareil, il y a des divergences entre savants qui n'ont, ceci étant pas d'utérus non plus. Hein, donc,
je suis désolé, mais c'est vrai qu'il y a deux avis qui sont sur...
Oui, voilà. Justement, je ne voudrais pas rentrer sur cette question religieuse, mais c'est vrai que dans toutes les religions monothéistes, c'est l'impureté du sang des règles.
On dit que c'est impur.
Mais bien sûr. Oui. Et donc,
c'est une erreur, il faut le souligner. C'est pour ça que je dis, je ne rentre pas non plus dans ça.
Mais c'est pas du tout. Donc, toutes les femmes, dès qu'elles ont leurs règles, dans toutes les religions, elles sont mises à part, mais elles font tourner le lait, elles font tourner les mayonnaises.
Et le pire, c'est que nous, on a fait combien d'émissions, Nadia, pendant le ramadan, sur l'impureté des règles. Donc, c'est quand même une idée.
C'est très important.
Qu'il faudrait peut-être revoir chez les théologiens.
Non, là, et donc, c'est effectivement, c'est inscrit dans la Bible. On sait que beaucoup de nos idées viennent de ces livres du livre, donc c'est important. En tout cas, la médecine et toute l'observation qu'on peut faire annule complètement cette idée. Il n'y a pas d'impureté des règles. Les règles ne sont pas sales et ne sont pas tabous. Et combien de femmes sont obligées de se cacher, de ne parler. On parle pas des règles. J'ai mes ragnagna. La brigade
des Anglais. Ça fait longtemps que j'avais pas entendu les ragnagna.
Voilà, il y a
les Anglais qui débarquent.
Il y a les Anglais qui débarquent. On se cache, on touche pas, etc. Il y a aucune impureté.
C'est incroyable.
Sur la question des règles.
Mais les règles, c'est bleu, c'est vrai.
Et puis en plus, oui.
C'est bleu, non?
Il y a beaucoup de groupes, non.
Non, c'est pas bleu? À la télé, c'est bleu.
Ah ben oui, justement, sur la petite
serviette. Mais oui,
c'est pour dire que justement, ce tabou est vraiment généralisé. Donc c'est vrai qu'on
les montre pas.
Non, voilà. Et c'est pas que religieux, c'est vraiment une question dont les femmes doivent se réapproprier la signification. Et il n'y a aucune impureté.
Il y a des groupes féministes qui, justement, leur bataille, c'est de réhabiliter les règles d'une certaine façon. Et de façon parfois très, très loin. C'est-à-dire
les hommes ont vraiment beaucoup du mal à comprendre. En tout cas, c'est cette question des règles. Il y a beaucoup de clichés et d'idées reçues là-dessus. Donc c'est bien que
les hommes et les femmes d'ailleurs, hein, parce que même les femmes ont encore cette idée qu'elles sont sales pendant les règles, qu'elles ne peuvent pas aller nager en ayant leurs règles.
Alors une petite précision parce que je crois qu'on est sur un sujet extrêmement intéressant. Mmh. Bon, non seulement il y a cette notion d'impureté, mais qu'est-ce qui se passe sur le plan, mais je l'explique aussi dans le livre. La deuxième partie du cycle, cette partie où la progestérone va être sécrétée pour tenir l'œuf dans l'utérus. Qu'est-ce qui se passe pour les femmes, elles sont à ce moment-là au pire moment de leur vie, dans cette deuxième partie du cycle, justement une semaine avant les règles. Elles sont un peu déprimées. Le taux de suicide chez les femmes est beaucoup plus important parce que la chute hormonale qui est attendue puisqu'il n'y a pas eu de fécondation va entraîner, je le dis dans le livre, des idées moroses. Je suis moche, je suis nulle, je vaux rien. Le temps. Il est tout, il y a des boutons, des choses. Et je crois que tout cela, on grossit un petit peu, on a un peu de rétention d'eau juste avant les règles. Et tout ça participe de cette idée reçue d'évacuation d'un sang mauvais, d'un sang impur, parce qu'une fois que les règles arrivent, les femmes, d'un coup, retrouvent une humeur joyeuse, retrouvent leur poids habituel, la peau devient complètement claire et lisse, et on se dit, ben voilà, j'ai évacué le vieux sang, le sang vicié, et voilà pourquoi je suis mieux. C'est simplement hormonal.
Bon, je suis triste parce qu'on n'a pas évoqué, on n'aura pas le temps d'évoquer la ménorrhée lactationnelle ou mama. Mais alors, ça aussi, il y a beaucoup d'idées reçues.
On réinvitera Docteur Rival.
Ah, si elle veut revenir.
Ah, mais bien sûr.
Vous reviendrez.
Mais je suis toujours ravie
de pouvoir transmettre
de façon simple, spontanée. Les femmes ont besoin, doivent savoir.
Bon, vous mettrez en commentaire sous la vidéo si vous voulez que le Docteur Brival revienne, si vous avez appris des choses. Voilà,
alors,
c'est
les
important.
Deux livres, qu'il faut se procurer, donc SOS Contraception chez First. Et alors le petit guide de gynéco pour les nuls, où là c'est beaucoup plus vaste. Il y a une partie sur la contraception, mais il y a aussi beaucoup de choses sur la consultation gynécologique, certaines pathologies, donc à lire.
Ouais. Il n'y a pas le livre « Comment trouver un gynéco ?» parce que ça devient une denrée rare aujourd'hui, les gynécos. Hein. Merci d'avoir trouvé du temps pour venir jusqu'à nous. Nadia, on vous retrouve mardi prochain. Passez une très belle journée santé sur Beurre FM.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.